Merci les musiciens, Dieu vous bénisse, merci beaucoup. C'est bien. Nous avons remercié Dieu, nous avons prié, nous savons qu'il est avec nous et qu'il nous guide, qu'il nous conduit en toutes choses. Vous le croyez?
Oui.
Vous savez que Dieu compte autrement les jours. Vous savez pourquoi? Maintenant on sait pourquoi. Hein, pour ceux qui ne savent pas, je vous dis juste le mot « kolob ». Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous allez écouter une de mes prédications. Je ne sais plus laquelle, mais c'est dernièrement, j'ai enseigné ces choses-là, mais je sais... Mais est-ce que je l'ai enregistré, ça? Je ne sais plus. Enfin, de toute façon, on en reparlera, mais Dieu compte les choses, les jours, autrement que nous. Et puis nous, ça nous semble long, mais en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas long du tout. C'est exactement comme Dieu veut. Amen. Ah, on sait ça. On va lire dans Exode, chapitre 23, verset 20. Voilà ce que Dieu dit à Moïse, il dit voici au peuple, voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le et ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Nous savons que tout ça c'est vrai. Nous savons que Dieu a une parole. Mais il y a... Excusez-moi, je ramasse quelque chose qui est tombé. Il y a une condition, il y a toujours une condition. Il faut que nous marchions selon sa volonté et que nous écoutions. Écoutez. Il y avait un jeune homme qui marchait tranquillement dans la rue, et puis il a croisé deux femmes qui étaient en train de parler, et en les croisant, il a entendu une des deux femmes qui disait à l'autre, « Oh, ce roi là-bas, mais c'est incroyable, il est puissant, mais vous savez, pour en arriver là, il a fait un pacte avec le diable. » Ce jeune homme était un petit peu étonné que quelqu'un parle comme ça, et puis il a continué à marcher, et puis en marchant, voilà que il s'assied au bout d'un moment, peut-être un peu fatigué, il s'assied à une terrasse de bistrot pour boire un coca, puis à la table, d'à côté, il y avait deux bonhommes qui discutaient, il y en a un qui s'est mis à dire, tu te rends compte, toutes les terres appartiennent au même propriétaire dans ce village, c'est quand même scandaleux, c'est démoniaque. Et puis, ce jeune homme a fait le lien entre ce qu'il avait entendu juste un petit peu avant des deux bonnes femmes, et puis de ce que ces gens disaient là, à côté de lui, dans ce bistrot. Il se lève, après avoir bu son coca, payé sa consommation, et puis se dirige vers un grand magasin dans une rue. Et puis, en passant, il voit une très belle femme qui faisait du lèche-vitrine, qui regardait les vitrines. Et puis, en passant à côté d'elle, il y a un bonhomme avec un petit costume démodé qui passe et puis qui murmure, « Cette fille est au service de Satan, c'est pas possible. » Vous voyez? Voilà. Alors, ce jeune homme a décidé d'aller trouver le démon pour lui poser des questions, parce que quand même, hein. Alors il rencontre le démon, puis lui dit, on prétend que vous rendez les gens puissants, riches et beaux. Ben, c'est quoi cette histoire? Alors le démon lui a répondu, pas tout à fait. Tu n'as écouté que l'opinion de ceux qui veulent me faire de la publicité. voilà. Pauvre bigot. Pauvre religieux à deux balles, pauvre peureux dépourvu de bon sens. Tout ce qui les dépasse, ça vient du diable. Mais ils n'arrivent pas à imaginer que Dieu crée des belles choses, donne les moyens à ceux qui sont fidèles, qu'il ne leur manquera rien s'ils sont fidèles. Hein. Non, c'est quand quelque chose réussit, ben c'est forcément parce que la personne est malhonnête ou parce qu'elle a fait des pactes avec le diable ou parce qu'elle est mauvaise, etc., etc. Nous avons un grand Dieu, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est bon et il nous a fait de nombreuses promesses qui sont toujours, bien sûr, accompagnées de conditions. La bénédiction, ce n'est pas presse-mouton. Ce n'est pas parce qu'on demande qu'on reçoit. Bien sûr, demandez, vous recevrez. Ça, c'est écrit. Mais il y a toujours des conditions. Et les conditions, les promesses de Dieu, elles s'accomplissent toutes si nous sommes fidèles à notre engagement envers lui. Et envers son Église, parce qu'on peut être fidèle à notre engagement envers lui, mais si on n'est pas fidèle à l'engagement envers l'Église, eh bien, c'est du blasphème, puisque c'est son Église, c'est lui qui l'a construit. Alors, on est dans une illusion, et puis on se trompe, et puis après, on s'aperçoit que flop, puis alors on dit, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Et voilà, simplement parce que Dieu donne un temps pour que les gens se rendent compte, n'est-ce pas, de leur erreur, et puis puissent se détourner de leur erreur et revenir dans le bon sens. Jésus-Christ est la vie, et la vie est bonne, mes frères et sœurs. La vie est bonne parce que Dieu est bon. Pourvu que... Voilà, c'est ça. Pourvu que vous viviez ce que Dieu et vous avez décidé lors, dans votre passé éternel, avant que vous veniez sur cette terre. C'est ça. Et heureusement, il a permis qu'il y ait un livre, la Bible, et maintenant le livre de Mormon, pour que nous puissions savoir ce que nous puissions nous souvenir de ce qu'il veut. Hein, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Mais la Bible, c'est un témoignage de Jésus-Christ donné par des prophètes, des apôtres, afin que nous nous souvenions, que nous nous rappelions de ce qu'il veut, de ce qu'il a dit. Et c'est une bonne chose que nous ayons ce livre, parce que sinon, ça serait la catastrophe. Déjà, avec ce livre, les gens arrivent à s'entretuer, à se haïr au nom de Dieu. Alors si en plus on n'avait pas le livre, ça serait une confusion encore plus épouvantable. Dieu est bon, pourvu que nous vivions selon sa volonté. Est-ce que vous écoutez votre ange? Mon ami Jaref m'a demandé l'autre jour, est-ce que tu as déjà prêché? Il faut que je vous enseigne plus sur les anges, parce qu'il y a un ministère d'anges. Et la plupart des gens ne savent même pas, même les chrétiens, qu'ils ont un ange et ils ne l'écoutent pas, ils ne savent pas comment écouter. Et est-ce que vous écoutez les anges ou est-ce que vous écoutez les bigots? La plupart des chrétiens écoutent des bigots. Mais tu n'écoutes pas les anges. Dieu a envoyé un ange devant vous pour vous faire arriver là où Dieu veut que vous arriviez, c'est-à-dire à la maison du Père. Il veut que vous retourniez à la maison du Père, mais avec magnificence, avec de l'expérience en plus que vous aurez acquis dans votre chair, dans votre vie ici-bas. Mais encore faut-il écouter votre ange. Les anges, ce n'est pas simplement juste pour faire joli sur les peintures dans les églises. Hein. C'est des esprits réels qui sont là à notre service. Et qui, pourvu que vous l'écoutiez, prends garde en sa présence. Mais encore faut-il que vous l'écoutiez. Encore faut-il que vous ne le résistiez pas. Beaucoup de gens ne savent même pas écouter leur ange. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont... ils se servent de leur cerveau. Et le cerveau, en réalité, ce n'est qu'un récepteur. La conscience ne vient pas du cerveau. Elle est à l'extérieur de nous. La conscience, elle remplit tout. C'est Dieu avec ses anges. La conscience, elle remplit tout. Et notre cerveau, il capte ou il ne capte pas. Et ça s'exerce. Ça s'exerce. Vous me direz, où est-ce que tu vas chercher ces choses, Michel? Écoutez, arrêtez d'être matérialiste. Il faut que vous croyiez ce que je vous dis. C'est une évidence. Le monde des anges existe. Maintenant, il y a des scientifiques qui disent, oui, c'est vrai, on sait, ça existe. Il y a un monde spirituel. On sait qu'il y a quelque chose après la mort. Et puis vous avez des scientifiques qui disent non, c'est quand le cerveau s'arrête, ben c'est fini, il n'y a plus rien. Vous savez à quoi ils me font penser, ces braves matérialistes à la noix de coco ou ces chrétiens qui croient dans les anges mais qui ne les écoutent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire pour les écouter parce qu'ils n'ont jamais exercé, n'est-ce pas, leur sens spirituel. Mais ils me font penser à un bonhomme qui se méfie, qui se dit, ma femme, je me demande si elle n'a pas un amant. Alors, il prend un détective privé, et puis lui donne de l'argent, il dit, suivez ma femme partout. Alors, le détective privé, il suit, et puis tout d'un coup, il téléphone au bonhomme, puis il dit, écoutez, oui, votre femme, elle vient rentrer dans un restaurant, elle est assise à côté d'un bonhomme, et puis il se bécote. Ah bon? Oui, ah ben attendez, là, il se lève, et il prend un taxi. Ah, suivez-les, suivez-les. Alors, il suit. Et puis,
Le taxi roule, puis hop, ils s'arrêtent devant un hôtel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans l'hôtel tous les deux en se tenant par la main et puis ils se bécotent. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Maintenant, ils montent dans l'étage. Je vois la lumière s'allumer, je les vois à travers la vitre. Je les vois par la vitre, je les vois. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, ils ont éteint la lumière. Alors l'autre, il dit, ah bon? Alors on ne sait pas ce qu'ils font. Puisqu'on ne voit pas, on ne sait pas ce qu'ils font. Ça, c'est les matérialistes. Ils croient que ce qu'ils voient, devant toutes les évidences, ils sont stupides, mes frères et sœurs. Ils sont stupides et ils disent que c'est nous qui sommes stupides. Il y a des évidences maintenant. Il y a des évidences. On sait que notre conscience ne vient pas simplement de notre cerveau. Notre cerveau, c'est juste un organe qui capte. Mais encore faut-il exercer notre cerveau pour pouvoir recevoir justement ces messages que les anges donnent, que l'Esprit de Dieu donne. Et être sensible, avoir de l'intuition, être... Ils ne veulent pas, ils préfèrent... Ah bon, c'est ballot, la lumière est éteinte, donc on ne voit rien, donc il ne se passe rien, il n'y a rien. Joseph, le mari de Marie, lui, il écoutait son ange. Il y a peu de choses écrites sur Joseph, mais on sait que trois fois... La première fois, c'est son ange qui a exigé, n'est-ce pas, qu'il garde cette fiancée qu'il avait, même si elle était enceinte. Il a obéi. La deuxième fois, un ange lui a dit qu'il fallait qu'il parte avec sa femme et le gamin en Égypte. Il l'a fait. La troisième fois, alors qu'il s'était bien installé en Égypte, que les affaires reprenaient, parce qu'il avait quitté son boulot quand même en Israël pour obéir à l'ange. Comme vous qui avez quitté votre boulot pour partir là-bas. Mais il a osé le faire parce que l'ange l'avait dit. Ensuite, arrivé là-bas, il se monte de nouveau un truc de charpentier. Puis quelques temps, ça commence à marcher. Quelques temps après, voilà que l'ange lui dit, maintenant, il faut rentrer. Rentre en Israël. Qu'est-ce qu'il fait Joseph? Il ne rouspète pas, il prend son gamin, il prend sa bonne femme, puis il rentre. Excusez-moi les catholiques si je dis que Marie c'est la bonne femme de Joseph, mais c'était quand même sa bonne femme, c'était sa femme. C'était sa femme, ils ont eu des enfants encore après, sinon ils n'étaient pas... c'est pas mon message. Et comme des milliers de Joseph, ce Joseph-là savait que le destin d'un homme, c'est de protéger et de nourrir sa famille. Eh bien Joseph, le mari de Marie... écouter son ange pour que sa femme et son gamin puissent avoir le meilleur. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la personnalité de Joseph? Pas grand-chose. Juste que c'était un homme juste. On trouve ça dans Matthieu 1,19. C'était juste un bon charpentier. C'était juste un bon mari. C'était juste un bon papa d'un gamin qui allait bouleverser le monde. C'était un homme juste. Jésus n'a pas eu besoin d'aller apprendre la sagesse auprès de sages dans l'Himalaya, comme certains crétins essayent de nous le faire croire, n'est-ce pas, dans des bouquins, parce qu'eux, ils savent, n'est-ce pas, des trucs que personne ne sait, mais eux, ils savent. Mais Jésus n'a jamais été dans l'Himalaya pour apprendre la sagesse des Himalayens, jamais de la vie. Il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il avait son papa adoptif, Joseph, qui écoutait son ange, qui était un homme juste, qui était un homme bien, et ainsi cet homme a transformé son travail de charpentier en mission sacrée, en apprenant à son fils le métier de charpentier, à faire des tables, à faire des chaises, mais selon des règles, selon l'ordre normal, et puis sans se presser, d'une façon correcte. Il y a des gestes qui sont à poser quand on est des professionnels, et Joseph a appris tout ça à son fils, et puis ça a créé le caractère du gamin. Il devait croître en stature, en sagesse, nous dit la Bible. Mais c'est au travers de l'éducation qu'il a reçue de son papa et de sa maman. Joseph, il n'a pas dit à son père, à son gamin, « Tiens, je t'offre une PlayStation, puis tu fous le camp dans ta chambre et tu me fous la paix pendant que je prépare ma prédication. » Non. Il s'est occupé de son gamin. Et comme ça, les choses qui semblaient banales sont devenus sacrés. Le métier de charpentier est devenu sacré. Et Joseph savait écouter son ange. Il ne suivait pas le rythme de tout le monde. Il marchait à son rythme. Et le rythme auquel il marchait, c'était le rythme que son ange lui imposait. Est-ce que vous respectez votre rythme? Vous savez, c'est votre ange qui marque la mesure. Il n'exige pas de vous ce qu'il exige des autres. Et tous, on arrivera au but, mais à notre rythme. J'ai appris ça au cours de mes voyages. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. Et un après-midi, mon ange m'a parlé et m'a dit, il ne faut pas que tu fasses de comparaison. Parce que j'avais tendance à toujours tout comparer. Et mon ange m'a appris ça en me faisant comprendre, il ne faut pas que tu compares les prix. Entre les prix de la vache qui rit en France et la vache qui rit au Burkina Faso, il ne faut pas que tu compares la propreté de la Suisse et la propreté de Paris. Il ne faut pas que tu compares la qualité de vie à Lausanne ou la qualité de vie à Barbès. Il ne faut pas que tu compares la qualité de vie ou alors les moyens de transport. Il ne faut pas que tu compares toutes ces choses-là dans le monde. Rien, il ne faut pas que tu compares parce que ça peut sembler étrange qu'un ange vous dise une chose pareille. Ben non, moi ça ne me semble pas étrange. J'ai compris pourquoi il voulait me dire ça. Parce qu'il voulait m'apprendre une chose très importante par ce conseil, c'est que je n'ai pas besoin de me prouver ou de prouver aux autres que je vis mieux qu'eux ou moins bien qu'eux. Vous voyez? Ce que j'ai besoin, c'est d'apprendre ce que les autres vivent quand je vais ailleurs, quand je vais dans un autre pays. Apprendre ce qu'ils peuvent m'enseigner, comment ils affrontent leur réalité, comment la vie est extraordinaire. Quand on va, vous allez, moi j'ai été, Robert aussi, plusieurs d'entre nous, Stéphane, Olivier, on est allé Michou en Afrique, et vous avez vu comment ça se passe. Ils sont plus heureux que nous. Pourtant, il n'y a pas de quoi. Mais ils ont trois fois rien, ça ne fait pas grand-chose, trois fois rien, mais ils le partagent et ils sont heureux. Ils dansent, ils rigolent et tout. Ils vont me dire qu'il y a une misère épouvantable. Oui, par rapport à nous, si on compare, oui. Mais en même temps, ils sont plus heureux. Ils sont plus heureux, il y a autre chose. Si on ne fait pas ça, si je n'avais pas obéi à mon ange, si j'avais continué à toujours comparer, si on ne fait pas ça, on ne peut pas prétendre avoir la sensibilité pour écouter notre ange, parce qu'on ne sait déjà pas écouter les gens qu'on voit. Comment voulez-vous écouter les anges qu'on ne voit pas? Il ne faut pas raconter des histoires. Quelqu'un qui est insensible, qui n'écoute pas sa femme, ou qui n'écoute pas son mari, ou qui n'écoute pas ses enfants, qui n'écoute pas ses frères et sœurs, qui n'écoute pas, comment voulez-vous qu'il écoute les anges? Il ne faut pas me raconter des histoires, ce n'est pas vrai. Les anges sont des esprits, nous sommes des esprits. Le problème, c'est qu'on a un corps, notre corps est très bruyant, il a toutes sortes d'exigences. Alors souvent, les anges sont obligés d'attendre qu'on dorme pour pouvoir nous parler, même avec Joseph. Parce que là, au moins, il n'y a pas d'interférence. Mais normalement, ils doivent pouvoir vous parler à n'importe quel moment. Mais vous n'allez pas attendre une grosse voix qui sort d'on ne sait pas où pour vous dire les choses. Non, ça se passe, c'est subtil, ça se passe au niveau de vos intuitions, ça se passe au...
Ainsi dit le Seigneur, ça c'est si belle de mille, ça c'est voilà.
Alors on va beaucoup trop vite, nous prenons pas le temps d'écouter, nous prenons pas le temps d'apprendre à écouter, même nos proches. Alors comment ralentir? Comment prendre le temps? Dieu a envoyé un ange devant toi et il te dit, fais bien attention à sa présence. Est-ce que vous faites attention à la présence de l'ange avec vous? Qui fait attention? Déjà, les chrétiens, la plupart du temps, ils ne croient pas aux anges. S'ils y croyaient, ils feraient attention. Ils ne font pas attention parce qu'ils n'y croient pas. S'ils y croyaient, ils feraient attention. Mais ils n'y croient pas. Ils font la preuve qu'ils n'y croient pas puisqu'ils ne font pas attention. Vous savez, la Bible nous dit que dans le monde, les gens, des fois, parfois et souvent, plus de sagesse que les gens des églises. Ça fait le 1er juin... Ça me fera combien d'années de conversion? Je peux vous dire que je sais que la Bible dit vrai. J'ai vu pendant toutes ces années que c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de sages parmi les chrétiens. Prenez le cas de M. Christopher Scholes. Vous ne connaissez pas Christopher Cholef? Pourtant, vous devriez, parce que si vous avez un ordinateur, vous êtes sans arrêt ralenti par M. Christopher Cholef.
Ah bon?
Mais bien sûr. M. Christopher Cholef a inventé le premier prototype de la machine à écrire en 1873. Et puis, il avait mis sur le clavier les lettres dans l'ordre alphabétique. Et c'était facile à trouver les lettres dans l'ordre alphabétique. Hein? Donc, les dactylos, ils tapaient très vite. Puis, vous savez comment c'était les machines. C'était c'était des ressorts et des machins. Puis, vous aviez un espèce de petit bras avec la lettre qui allait tac, taper sur le... Mais elles allaient tellement vite que ça enrayait tout. Puis, toutes les lettres... toutes les lettres se coinçaient. Vous avez déjà vu ça, vous, les vieux là comme moi, vous avez déjà tapé à la machine, vous savez bien, si on tape trop vite, ben ça coince. Donc il a trouvé un truc pour que les dactylos soient obligés de taper plus lentement. Et alors il a créé le clavier AZERTY. Vous savez ce que c'est le clavier AZERTY? Non? Ben moi je vais vous le dire. Vous prenez votre clavier, vous regardez en haut à gauche, il y a la lettre A, puis après il y a quoi? Z, E, R, T, Y, etc. C'est pourquoi on appelle le clavier AZERTY. C'était pour embrouiller les gens, pour que ça soit plus difficile, pour les obliger à taper plus lentement, pour que ça ne coince pas. Maintenant, avec les ordinateurs, ça n'a plus lieu d'être, mais on a tellement pris l'habitude. Tous les fabricants de machines à écrire ont pris ce truc-là parce qu'ils ont trouvé ça génial de ralentir, n'est-ce pas, ces chers dactylos. Et puis, tous les claviers, maintenant, c'est des claviers AZERTY. C'est rigolo, vous ne saviez pas ça? Moi non plus, hier, je ne savais pas, je l'ai appris hier. Et pourquoi je vous dis ça? Simplement pour vous faire comprendre que tout le monde va trop vite et que presque personne ne prend le temps d'écouter son ange, ni d'écouter sa femme, ni d'écouter son mari, ni d'écouter les enfants, ni d'écouter la nature, ni rien. Alors la machine s'enraye. La machine s'enraye. Et puis en plus, on n'écoute pas sa femme, on n'écoute pas ses enfants, on n'écoute pas... Mais on écoute la radio, on écoute la télé, il y a toujours du bruit, toujours de la musique, toujours... C'est terrible. Même moi le premier, hein. C'est terrible. La radio, les disques, les machins. Les gens, même les chrétiens, qui devraient être plus spirituels, de par nature, eh bien, ils n'écoutent plus rien, sinon leur propre idée, et ils parlent à des gens qui ne les écoutent pas, et ça enraye toute la machine de l'Église, ça ne marche plus. Et bien alors, chacun a sa théorie sur tout, et est persuadé que sa vérité, c'est la seule qui compte. Donc, on ne fait plus attention, n'est-ce pas, aux règles établies par Dieu pour que l'Église soit en ordre. Et puis, ben, ça coince, ça coince. Hein, c'est exactement ce qui nous est arrivé ici dans la communauté, parce que les gens vont trop vite et puis ne prennent pas le temps d'écouter et ils mettent des priorités fausses. Fonce. Ah, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Théorie personnelle, révélation personnelle. Les révélations pour diriger l'Église viennent aux serviteurs de Dieu, et vous pouvez avoir des révélations pour diriger votre vie. Et si vous êtes père de famille, vous pouvez avoir des révélations pour diriger votre famille, mais jamais pour diriger l'Église. Jamais. Ce n'est pas, absolument pas dans l'ordre établi par Dieu. Mais allez faire comprendre ça à quelqu'un qui n'écoute rien. Vous avez des gens, c'est par famille, qui écoutent rien, ils n'écoutent rien. C'est dans leur gène, ils n'écoutent pas. Là, il y en a un qui m'écoute en ce moment, mais il n'écoute pas. Il entend blablabla. À la fin, quand il dira qu'est-ce qu'il a dit, il a dit blablabla. Parce qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas. C'est tout. Donc, il va continuer dans sa voix jusqu'à ce que, bam, il se prenne le mur dans la tronche, puis là, il dira... Ah bon? Alors, un soir, mon ange m'a dit, ils oublient une chose. La seule chose qui est importante au sujet des idées, des doctrines et des croyances, c'est que, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ces idées, ces doctrines, ces croyances, qu'elles soient justes ou qu'elles soient fausses, c'est que elles n'existent que lorsque on se met à les vivre. Les idées, les doctrines, les croyances qu'on prêche, dont on parle, mais qu'on ne vit pas. Si ça ne se vit pas, c'est rien du tout. C'est du pipeau. C'est pourquoi les églises se vident. C'est parce que les gens en ont marre d'entendre du pipeau qui ne sert à rien. À rien du tout. Ça vous sert à quoi? Bon, je l'ai fait, j'ai prêché, parce qu'il faut un minimum de connaissances sur ces choses. Mais quand vous entendez rabâcher 150 fois le même truc au sujet de la cinquième ou de la septième trompette à bout filtre d'Apocalypse, machin, mais il y en a marre, les gens, ils veulent quelque chose pour leur vie pratique. Vous comprenez? Ben voilà. Voilà, c'est tout. Alors, les idées, les doctrines, les croyances qu'on prêche, dont on parle, mais qu'on ne vit pas ou qui ne sont pas vivables, ça devient des impulsions électriques dans notre cerveau. Et si on ne vit pas ça, eh bien, ces impulsions électriques déchargent leur énergie d'une façon négative. Dans l'électricité, il y a toujours du négatif et du positif. Et dans notre cerveau, c'est que des connexions électriques. Est-ce que vous le savez? Et alors, ça se décharge. Il faut que ça se décharge. Et ça se décharge sous forme d'énergie négative et notre être devient amer, acide, et on tombe malade. C'est ce qui m'est arrivé parce que j'étais contrarié d'une façon très forte et puis que j'ai compris, bon, ben, j'ai commencé à me battre. Et se battre, c'est pas simplement prendre des médicaments. On se remplit de vitriol avec ces trucs-là. Et de nos jours, si tout va mal dans le monde, c'est parce que personne n'écoute ni Dieu, ni son ange, ni personne. Les gens sont devenus des malades. Des malades. Mais ce qu'il y a de bien dans ce truc-là, en fait, comme c'est mondial, du point de vue social, il y a un avantage, c'est que cette maladie est devenue la norme. Donc, par conséquent, l'internement n'est plus nécessaire. C'est simplement une planète de fous. Mais oui, c'est ça. Excepté dans les cas où le comportement du malade commence à affecter son entourage, là, bon, faut l'enfermer. Mais autrement, il n'y a pas besoin d'enfermer les fous, puisqu'ils sont tous fous. Donc c'est la norme. Voilà. Bonjour les dingos. La plupart des amers peuvent rester en dehors des hôpitaux psychiatriques sans constituer une menace pour la société. Pourquoi? Parce que, puisque grâce aux hautes murailles dont ils se sont eux-mêmes entourés, eh ben, ils sont totalement isolés du monde, même s'ils semblent en faire partie. Ils sont isolés, ils sont tout seuls. Et c'est comme ça. Et c'est, tout le monde est tout seul.
Derrière leur écran, comme des grosses nouilles.
Et voilà, au siècle de la communication, les gens ne communiquent plus. Mon Dieu, mais quelle époque, mais quelle époque. Mais je suis tellement content d'être vieux. Mais je suis content parce que même si Jésus revient pas très très tôt, je suis sûr de mourir quand même assez rapidement pour ne pas voir encore toute cette déchéance grandir et devenir insupportable. Pour le moment, ça va encore. On arrive encore. Mais ça va devenir grave, c'est déjà pas mal, hein. C'est effrayant. Mes frères et sœurs, ne soyez pas comme tout le monde. Ce qui est merveilleux avec Jésus-Christ, c'est que le simple fait d'essayer est porté à notre crédit. Ça, c'est merveilleux. Dieu est merveilleux. Essayez d'aller moins vite. Essayez d'écouter vos enfants. Essayez d'écouter vos proches. Essayez d'écouter les gens en général. Essayez d'écouter votre ange. L'ange, ça vient en dernier. Hein, parce que si vous n'êtes pas capable, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'écouter les gens, vous ne pouvez pas écouter les anges. Ça, ce n'est pas vrai. Vous savez, si vous le faites au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un démon que vous allez entendre. Si vous le faites avec une intention louable qui glorifie Dieu, vous ne risquez pas de rencontrer un démon. Jésus l'a garanti. Il dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si vous demandez à Dieu avec une bonne intention, c'est du bon qui va vous arriver. Mais si vous avez une mauvaise intention, si vous voulez être le calife à la place du calife, par exemple, c'est une mauvaise intention. Donc vous avez droit dans le mur. Mais tant pis pour vous, hein, ça vous regarde. Il y en a qui aiment bien se prendre les murs. Hein, ou les portes de grange. Ou les... Alors, souvenez-vous, aimez. Je connais un homme qui prêche l'amour. Il prêche Jésus-Christ, donc il prêche l'amour. Là, en ce moment, il doit être en train de prêcher quelque part. Prêche l'amour. Il a son voisin direct qui est atteint d'un cancer. Eh bien, cet homme qui prêche l'amour n'a jamais été le trouver pour lui demander comment il va. Ou il n'a jamais été demandé à son épouse comment va son mari. Croyez-vous qu'ils connaissent l'amour dont ils parlent ? Non ! Il en parle. Ça s'arrête là. Et heureusement, personne ne l'écoute.
Parce que personne n'écoute, de toute façon.
Bon, voilà. Vous voyez, vivez ce que vous dites croire. Sinon, jamais ce que vous croyez ou ce que vous prêchez n'apportera la vie. Vos idées, vos révélations, vos doctrines sont des semences hybrides, sans vie. Ça ressemble à de la vie, mais ça n'est pas de la vie. Ça a la forme, mais ça n'est pas. C'est comme le Canada Dry, c'est pas. Ça ne sera jamais du champagne, hein, le Canada Dry. Hein. Vous voyez la différence entre un disciple de Jésus-Christ et un religieux ? Ben c'est ça. C'est ça. Un disciple de Jésus-Christ ne considère pas sa tâche comme un fardeau. Pas du tout. Il la considère, sa tâche, comme une occasion d'apprendre ce que c'est que le véritable amour. C'est ça. On apprend qu'est-ce que c'est le véritable amour. Mais frères et sœurs, on est environné, la Bible nous dit, d'une multitude de témoins angéliques. On est entouré d'une multitude de témoins d'esprit, mais aussi de personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de notre attention, qui ont besoin de nos encouragements, qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de notre réconfort, qui ont besoin de notre gentillesse, qui ont besoin de notre christianisme. Que ce soit des membres de notre famille, que ce soit des amis, que ce soit des connaissances, que ce soit des inconnus ou même des ennemis, on n'a aucune excuse. Nous sommes les membres du corps de Christ ici-bas sur terre avec la mission de servir et d'aider les enfants de Dieu. Ça dépend uniquement de vous. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas des anges, ça ne dépend pas des démons, ça dépend de vous. Si nous ne le faisons pas, les vrais anges de Dieu ne vous parlent pas parce que vous êtes sourds. Parce que vous êtes sourds. Vous voyez, un ange marchait avec Moïse parce que Moïse s'occupait du peuple. Vous comprenez ? Un ange marchait devant le peuple parce que Moïse avait obéi. Pas d'obéissance, pas de Moïse. Si Moïse n'avait pas obéi, pas de Moïse, pas d'esclaves libérés. Et pas d'ange. Ça ne veut pas dire que les anges n'existent pas, mais il faut que vous existiez. Si vous n'existez pas selon les normes de Dieu, ben vous existez à la façon du monde, puis c'est tout. Puis dans le monde, ben les anges, pas grand-chose à faire. Hein. Et les voix qui parlent, ce n'est pas les voix d'anges, c'est vos voix dans votre tête, si ce n'est pas pire. Des voix qui vous disent, mais non, t'es pas schizophrène, nous allons beaucoup mieux. Ça, c'est une blague. Hein. Non, je vous dis parce que voilà, hein, sinon il y en a qui ne comprendront pas. Mes frères et sœurs, qui dans ton cercle d'influence pourrais-tu aider aujourd'hui ? Pas demain, demain sera peut-être trop tard. De combien de temps disposes-tu pour aider ou écouter quelqu'un aujourd'hui ? Comment peux-tu utiliser ton talent ou tes compétences pour faire du bien à une personne aujourd'hui. On est sans doute la dernière génération de disciples de Jésus-Christ sur la terre, et nous devons faire ce que les disciples de Jésus ont toujours fait dans chaque dispensation, nous entretenir les uns les autres, par des hymnes, chanter ensemble, parler ensemble, manger ensemble, construire ensemble, faire un bout de chemin ensemble, utiliser nos ressources disponibles, rechercher l'inspiration du Saint-Esprit et du ministère des anges, demander confirmation au Seigneur, et puis se remonter les manches et se mettre au boulot. Je vous fais la promesse, mes frères et sœurs, que si vous faites ainsi, vous serez guidés par le Saint-Esprit, précisément pour savoir qui, comment, quand et où vous allez pouvoir aider à la manière de Jésus. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit quand il s'est présenté aux Néphites. Il a dit, « Avez-vous parmi vous des malades? Amenez-les ici. Avez-vous des estropiés ou des aveugles ou des boiteux ou des mutilés ou des lépreux ou qui sont desséchés ou qui sont sourds ou qui sont affligés de toutes sortes de manières? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. » Et le Sauveur les guérit chacun d'eux. Vous trouvez ça dans 3 Néphites 1, 16, 6 à 10. Mais si vous n'entendez pas ce que je vous dis aujourd'hui, par le moyen de cette prédication sur révélationbible.fr, n'espérez pas entendre la voix de votre ange. Parce que ça, c'est une loi du royaume rétablie. C'est une loi dans le royaume. Il n'y a pas de royaume où il n'y a pas de loi. Arrêtez de vous faire des illusions en disant on est sous la grâce. Vous êtes dans un royaume. Il y a un roi. Il y a des ministres. Il y a des gens qui aident les ministres. Moïse, quand il a commencé avec son peuple, là, il est sorti d'Égypte, il s'est vite aperçu qu'il fallait de l'ordre pour pouvoir garder l'unité. Et puis il s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas y arriver tout seul. Mais il a essayé au début. Il a vu que ce n'était pas possible. Il a organisé. Et mes frères et sœurs, maintenant, aussitôt que vous parlez d'organisation dans une église, on vous dit, c'est du nicolaïsme. Attendez, racontez-moi pas d'histoire, c'est moi qui vous ai appris qu'est-ce que c'est le nicolaïsme. Je sais exactement ce que c'est le contraire du nicolaïsme. C'est l'organisation de l'église telle qu'elle est dans les Saintes Écritures, telle qu'elle est rétablie, pas telle qu'elle existe dans les églises ou dans les sites internet qui vous disent comment c'est. Non. Là, ce n'est pas le véritable rétablissement de l'organisation de l'Église. Ça, c'est encore du monde. C'est encore de l'homme. Dieu, aujourd'hui, a rétabli son Église et il nous explique exactement comment c'est. Allez-vous l'écouter? Si vous n'écoutez pas, c'est pas bien grave. Hein? C'est pas bien grave. Vous mangerez encore demain, après-demain. Et puis, ça continuera comme ça. Puis, vous pourrez toujours vous plaindre. Ou au moins vous aurez de la conversation, hein, ça sera bien. Mais moi, j'ai décidé d'écouter le Seigneur, d'écouter mon ange, de marcher, d'aller de l'avant, de continuer, de prospérer, de glorifier mon Dieu. Et il me reprendra quand il voudra, mais en tout cas, il me trouvera au travail. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et de les aider à faire ta volonté. Merci Seigneur de les rendre sensibles pour pouvoir écouter leur ange. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? C'est un bon dimanche? Gloire à Dieu, on va louer le Seigneur un moment et puis on va se séparer dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.